soir. On continue donc cette série sur les génomes, leur évolution et finalement, on espère en dernier cours hein, quelque chose qui touchera aux questions éthiques que ça soulève, cette connaissance qu'on a du génome et la capacité qu'on a de les manipuler. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous étiez tous la semaine dernière, j'ai vraiment mis des documents et j'ai parlé autour de documents qui sont des prétextes à parler des choses parce que en fait, c'est vraiment un sujet très vaste et je ne peux pas être exhaustif là-dessus. Et donc, si ce que je vous montre, ce que je vous dis suggère des questions, il ne faut surtout pas hésiter à m'arrêter. Et puis, si on doit partir dans des voies qui ne sont pas celles que j'avais prévues, c'est aussi bien. Je vais commencer avec ça, c'est vrai que je vous ai déjà montré la. Donc, vous vous rappelez peut-être que. En fait, c'est comme ça qu'on représente la diversité du vivant aujourd'hui. Il y a donc trois grands groupes à la base de l'art du vivant. Un grand groupe qu'on appelle les bactéries, qui sont ici à droite. Un autre grand groupe qu'on appelle les archées, qui sont un petit peu moins connus. On m'a posé des questions là-dessus après le cours, la semaine dernière. Un petit peu plus sur les archées aujourd'hui. Et un autre groupe que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas son nom, qui est le groupe des eucaryotes. Et vous connaissez les eucaryotes parce qu'en fait, vous êtes un eucaryote, vous êtes ici, là. Et en fait, la plupart des choses que vous connaissez du vivant, ça se situe dans ce groupe-là, tout ce qui est champignons, plantes, grosso modo, tout ce qui est macroscopique, tout ce qui est visible à l'œil nu, c'est des organismes qui sont dans ce groupe-là. Donc, l'idée de cet arbre, c'est de réussir à prendre conscience qu'en fait, ce que vous voyez au jour le jour, quand vous vous promenez dans la nature, c'est en fait qu'un petit tiers, probablement beaucoup moins qu'un tiers en termes de nombre d'espèces, la diversité de la vie. Et donc cet arbre représente les liens de parenté entre ces groupes. Et de cet arbre et des caractéristiques de ces groupes, on est capable de comprendre un certain nombre de choses par rapport à la manière dont le vivant fonctionne. Dans tous ces groupes, on a grosso modo cette structure-là, en fait. Tous les organismes vivants sont composés de cellules. Donc c'est cette espèce de petit sac noir que je vous ai dessiné là. Et une cellule, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est ce qu'on appelle une membrane qui définit deux milieux, un milieu interne et un milieu externe. Et entre ces deux milieux, donc ici je vous ai donné une représentation un petit peu plus scientifique de ce qu'est une membrane biologique. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de petits trucs rouges, hein, tout ça c'est des lipides en fait. Et puis dedans il y a des choses qui font par exemple des trous, des pores qui permettent des communications entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. C'est une structure qui est très complexe chez tous les organismes vivants, qui peut être assez différente entre les groupes. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que au niveau de la nature de la membrane, les eucaryotes et les bactéries se ressemblent beaucoup, et du point de vue de la membrane, les archées sont très très différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez amusant dans l'arbre. On a, pour la manière dont la cellule est organisée ou de la manière dont la membrane est faite, ce groupe-là et ce groupe-là ont tendance à se ressembler. Ensuite, une autre chose qui est commune à tout vivant, c'est ce petit tortillon que je vous ai mis là. Et ça, c'est l'ADN. C'est la macromolécule, la molécule qui porte l'information génétique, qui porte en fait toute la recette de cuisine du vivant, celle qui permet à la cellule de savoir quoi faire pour développer un organisme, pour survivre, pour se nourrir, etc. Tout le plan de fonctionnement de la cellule est écrit là. Et c'est en lisant ce livre, en lisant cette molécule d'ADN, que la cellule est capable de faire certaines actions. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que si on va voir, donc tout le monde a de l'ADN, hein, les archées, les bactéries et les eucaryotes, mais si on va voir les molécules qui sont en charge du maintien de cette information, de la réplication d'ADN, vous avez vu, on a parlé de la réplication d'ADN, si on va voir les molécules qui sont responsables du maintien de cette information, eh bien on voit que les eucaryotes et les archées ont tendance à se ressembler beaucoup. Donc comme vous avez vu, on a dit du point de vue de la membrane et du point de vue de l'extérieur, on a plutôt tendance à se ressembler entre eucaryotes et bactéries. Et du point de vue de la machinerie qui s'occupe de l'information génétique, on a plutôt tendance à se ressembler entre eucaryotes et archées. Et enfin, la manière dont cette information qui est codée sur l'ADN, écrite en ATCG, est lue, ça c'est via un code génétique qui est universel, donc qui est le même pour tous les organismes vivants, les bactéries, les archées et les eucaryotes, je le martèle. Et ce code génétique, c'est ce qui permet de transformer cette information en protéines. Alors là, je vous ai mis une petite image qui représente quelque chose dont on a parlé la semaine dernière, qui n'était peut-être pas tout à fait assez explicite la semaine dernière, qui est la traduction. Donc vous voyez, on a une molécule ici qui est écrite dans les lettres simples de l'ADN. Bon, en fait, ce n'est pas tout à fait les lettres de l'ADN, il y a un U à la place du T, mais ça c'est une petite chose sur laquelle je ne vais pas revenir, mais grosso modo, c'est le message qui est dans l'ADN. Et en fait, il y a une machinerie là qui s'appelle le ribosome qui vient lire les triplets de lettres, ce qu'on appelle les codons, et qui à chaque codon va venir mettre une petite molécule, va venir coller une petite molécule à cet enchaînement de petites molécules là. Donc, ce qui va se passer, c'est que celle-là va venir se mettre là, et cette petite molécule qui est là va venir s'attacher ici, et on va continuer à allonger la protéine comme ça. Et alors les protéines, c'est par exemple ce qu'on retrouve ici dans la membrane. Ça fait partie des choses, de la structure de la cellule, ça fait partie de ce qui va faire par exemple les pores dans la cellule. Et en fait, la plupart des petites machines qui fonctionnent à l'intérieur de la cellule, c'est des protéines. D'accord ? Donc ça, c'était un peu le rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Le génome, il est là. Et tout ça, c'est l'environnement dans lequel fonctionne et avec quoi marche le génome. Alors, on a vu que il y a certaines caractéristiques pour lesquelles les bactéries et les eucaryotes ressemblent. Il y a certaines caractéristiques pour lesquelles les eucaryotes et les bactéries se ressemblent, et les archées se ressemblent. Il y a quelque chose, il y a une troisième chose qu'on peut regarder qui, elle, rassemble plutôt les archées et les bactéries, c'est la structure de la cellule dans son ensemble. Chez les bactéries et chez les archées, l'ADN se trimballe au centre de la cellule, comme ça, complètement nu, et c'est là que se passent toutes les opérations, la réplication et sa traduction. Alors, je vous ai pas parlé de la transcription, hein. C'est juste qu'il y a un intermédiaire en fait entre le message qui est sur l'ADN et la manière dont il est traduit en protéines.
Et l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui se passe chez les eucaryotes, c'est qu'en fait, l'ADN, lui, il est isolé du reste de la cellule. Il est à l'intérieur d'un noyau. C'est pour ça qu'on les appelle les eucaryotes. Ça veut dire vrai noyau, en fait, eucaryote. Et ça, c'est une des différences fondamentales qui existent entre ces organismes. Voilà, donc vous voyez, c'est assez compliqué. Il y a des choses en commun entre les groupes 2 à 2. Et ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Vous allez voir comment comprendre.
Donc, au départ, sur la base de cette existence des structures cellulaires, dans les années 70, en fait, dans les années 60, on divisait le vivant en deux, on avait des eucaryotes d'un côté et des prokaryotes de l'autre. Prokaryotes, ça veut dire avant le noyau. Donc on avait dans l'idée que les prokaryotes, c'était des organismes primitifs, et que les eucaryotes, c'était des organismes évolués. Eux, ils ont un vrai noyau, et ceux qui n'ont pas de noyau, c'est avant le noyau. Ce qui est une idée fausse, on pourra la tenir, enfin, fausse dans le sens où il n'y a pas d'organisme primitif vivant. Et en fait, dans les années 70, quand on a commencé à être capable de séquencer les gènes et de comparer les organismes sur la base de l'information qu'il y a dans leurs gènes, on s'est rendu compte que les prokaryotes n'existaient pas, en fait. Que les prokaryotes, c'était deux grands groupes très très différents, le groupe des bactéries et des archées. Au départ, on pensait que les archées, c'était des bactéries, et on pensait que c'était juste des bactéries un petit peu bizarres. Donc, je vais juste que... Alors, il y a autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est... Non, j'y reviendrai plus tard. C'est pas grave. Alors, les bactéries, on va essayer de faire un peu la différence entre les bactéries et les archées. Vous allez voir que ce n'est pas super évident comme ça sur des caractéristiques de leur manière de vivre. Donc, les bactéries n'ont pas de noyau. Elles se reproduisent de manière clonale. C'est-à-dire qu'une bactérie en fait deux. Et elle recopie son génome à peu près à l'identique, normalement à l'identique, aux erreurs près. C'est des organismes qui sont très divers et très abondants. Alors, la diversité des bactéries, bon, je pourrais vous en parler longtemps, mais on pourra y revenir. Donc, très abondantes, on n'en a pas conscience parce qu'on ne les voit pas, mais alors, par exemple, dans un gramme de sol, on dit qu'il y a 40 millions de cellules bactériennes. On estime qu'à un instant donné, sur la planète, il y a. Alors on note ça comme ça, on note ça 6 fois 10 puissance 30 cellules, ça vient à 6 avec 30 zéros derrière, et ça fait c'est quelque chose comme 6000 milliards de milliards de milliards de bactéries vivantes à un moment donné. Donc nous avec nos 6 milliards, on a la fin. Dans l'intestin humain, dans l'intestin d'une personne humaine, il y a 10 puissance 14 cellules. Donc un 1 avec 14 zéros derrière. Donc ça, déjà, c'est des milliards de milliards de... Enfin, c'est beaucoup plus que la population humaine. Alors, il y a des études assez récentes qui montraient que on estime qu'il y a environ, en moyenne, 160 espèces qu'un être humain moyen vit avec 160 espèces de bactéries dans son tube digestif. En fait, c'est. Mais si on prend toute la population humaine, si on prend un grand échantillon de la population humaine, on voit qu'il y a probablement plusieurs centaines, voire des milliers d'espèces qui sont associées à l'homme. Vivent normalement dans l'intestin humain. Et donc vous êtes absolument dépendante pour digérer la plupart des choses que vous ingurgitez. Si vous
n'avez pas de bactéries à l'intérieur de votre tube digestif, vous seriez incapable de digérer la plupart des choses que vous mangez, en particulier en douillette, je pense. Donc, il y a de nombreuses espèces qui sont pathogènes, vous les connaissez sans doute. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein d'espèces dont on pensait que c'est des bactéries, enfin, plein de maladies dont on pensait que c'était des bactéries et qui n'en sont pas. Mais il y a pas mal d'espèces, il y a pas mal de maladies qui sont dues à des bactéries. Donc, par exemple, la tuberculose, le choléra, la syphilis, tout ça, c'est des trucs qu'on attrape par des bactéries. Oui, alors on peut dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, la tuberculose, je prends la première comme ça, donc c'est Mycobacterium tuberculosis, c'est une bactérie qui est pathogène, mais c'est une bactérie qu'on trouve aussi normalement dans le sol, une bactérie du sol, et c'est une bactérie qui, probablement, a un cycle de vie qui qui normalement passe sans l'homme. Et il arrive il est arrivé à un moment dans l'histoire qu'une bactérie a été capable d'infecter des animaux, et dont l'homme. Mais c'est pas forcément, enfin, pour la plupart des bactéries, le fait d'être pathogène, c'est pas forcément un état normal. C'est simplement la capacité fortuite de coloniser un nouveau milieu. Hein, quand vous êtes malade, en fait, vous êtes, c'est juste que la bactérie a trouvé un nouveau milieu où se reproduire, qui lui est particulièrement favorable. Et donc, souvent, c'est ça. C'est plus un état anormal, effectivement. Enfin, un état, pas anormal, mais un état transitoire ou anecdotique d'une espèce d'intérêt que les pathogènes. Alors, ceci dit, il y a plein d'espèces qui sont. Il y a aussi des espèces qui ont foncé dans cette direction et qui sont devenues des pathogènes obligatoires et qui font plus que ça. Mais il y a beaucoup d'espèces qui sont occasionnellement pathogènes. Donc les archées, on a pensé que c'était des bactéries au départ. Elles se reproduisent de la même manière, elles ont un peu la même structure cellulaire. Je vous ai dit qu'elles avaient des membranes qui étaient très différentes. Elles sont aussi bien abondantes. Alors, ce qui différenciait jusqu'à il y a un moment, il n'y a pas très longtemps, les espèces d'archées, c'est que on les trouve très abondantes dans les milieux extrêmes. Donc, par exemple, dans les sources chaudes, au fond des océans, au niveau des fumées en noir, où il y aurait des températures de 120 degrés, ou à des concentrations de sel où on pensait la vie impossible. Donc, en fait, partout, il y a eu une époque où on se disait il y a plein de milieux sur Terre où on ne trouvera jamais de vie. Et en fait, dans tous ces milieux, on a trouvé de la vie. Et à chaque fois qu'on a trouvé de la vie, c'était des archées. Donc notamment, les archées, c'est des spécialistes des milieux extrêmes. Elles sont très abondantes dans les milieux extrêmes. Mais en fait, on en trouve partout. Il y en a partout, c'est juste qu'elles sont beaucoup moins abondantes que les bactéries, c'est beaucoup moins évident de les trouver, mais elles sont omniprésentes, elles aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez les archées, il n'y a pas du tout de pathogène. On ne connaît pas de pathogène humain, on ne connaît même pas de pathogène pour d'autres espèces que l'homme. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un groupe d'organismes qui n'a jamais fait de pathogène à notre connaissance. Alors, déjà, ouais, alors après, les dernières familles, c'est déjà un peu complexe. Enfin, nous, on a déjà du mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est des organismes qui souvent vivent en colonie. donc qui pour la plupart sont des organismes unicellulaires qui vivent en colonie, parfois avec des structures de colonie qui peuvent être qui peuvent ressembler à des organismes multicellulaires. Et il y a un groupe de bactéries qu'on nomme souvent, qu'on appelle les myxobactéries, qui font des choses qui ressemblent beaucoup à des champignons. Et donc là, on peut appeler ça des bactéries multicellulaires. C'est un exemple d'évolution de la multicellularité qui est complètement indépendante de ce qui s'est passé dans la lignée eucaryote chez les plantes, les animaux et les champignons. Donc les eucaryotes, pour terminer notre trilogie, elles possèdent un noyau par définition, comme leur nom l'indique. Ils sont très variés du point de vue morphologique, vous en rendez compte tous les jours, vous savez. Ils peuvent éventuellement se reproduire de manière clonale, comme les bactéries et les archées, mais la règle chez les eucaryotes, c'est plutôt 16. Ça veut dire, à chaque génération, on doit trouver un partenaire et on mélange la moitié de son matériel génétique avec la moitié du matériel génétique de l'autre. Il y a beaucoup d'unicellulaires chez les eucaryotes, essentiellement des unicellulaires, mais il y a quelques pluricellulaires que j'ai cités tout à l'heure, donc les plantes, les animaux et les champignons, et puis les algues. Il y a quelques algues qui ne sont pas liées aux plantes, en fait, qui sont assez éloignées des plantes, et qui sont aussi multicellulaires. Mais sinon, l'essentiel des eucaryotes est unicellulaire. Et il y a aussi beaucoup de pathogènes de l'homme chez les eucaryotes, donc c'est pas que les bactéries, par exemple le paludisme, c'est un eucaryote. La maladie du sommeil qui est transmise par la mouche Tsetse, c'est aussi un eucaryote. La toxoplasmose, c'est un eucaryote. Et ensuite, il y a des animaux qui sont des parasites. Le ténia, la filariose, c'est des animaux. Les autres, c'est des organismes unicellulaires qui sont pathogènes. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai montré la semaine dernière déjà. C'est pour revenir au génome. Je voulais juste reposer un peu les bases des différences entre les groupes, parce que c'est vrai que je n'avais pas bien expliqué ça la semaine dernière. Donc ici, on voit les trois grands groupes, les eucaryotes, les bactéries et les archées. Et ici, on a une échelle qui représente les tailles de leur génome en nombre de paires de bases. Vous savez que l'hélice d'ADN, c'est c'est deux brins enroulés l'un sur l'autre, donc on appelle ça une paire de bases à chaque fois qu'on a un A en face d'un T ou un C en face d'un G. C'est en gros, c'est donc un nombre de lettres dans le génome une fois qu'on l'a séquencé, un nombre d'A, T, C et G. Cette échelle, elle est logarithmique, hein, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avancez d'un cran, vous multipliez par 10. Et donc vous voyez la variation des tailles au sein des eucaryotes, au sein des bactéries et au sein des archées. Vous voyez que chez les eucaryotes, c'est une variation énorme, avec des génomes qui sont vraiment très très grands. L'homme est là, ici on a une amibe. Ici, on a le cafard. Ici, on a la fougère. Là, il y a les bactéries. Donc, vous voyez que typiquement, c'est beaucoup plus petit, mais c'est comparable à certains eucaryotes. Ici, on a les archées. C'est grosso modo exactement la même chose que les bactéries. Et ici, j'avais mis les génomes des virus. Mais ça, on en reparlera plus tard. Alors, si vous vous rappelez un peu de ce qu'on a dit la semaine dernière, donc ça c'est des mesures de la taille des génomes, et ces génomes on est capable de les séquencer, et quand on séquence un génome ça donne ça, donc c'est des suites de lettres. Donc quand on séquence le génome humain, c'est 3 milliards de ces lettres. Et le but du Souvent, quand vous entendez à la radio, on vous dit voilà, on a décrypté le génome humain, on a décodé le génome humain. Ça, c'est un vœu pieux, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé le génome humain, et depuis qu'on l'a séquencé, on essaie de le décrypter. Et puis, on a séquencé des dizaines et des centaines d'autres génomes, et on essaie de les décrypter. Donc voilà, le but du jeu, c'est une image que j'ai prise d'un article d'un copain. Le but du jeu, c'est de trouver les plis dans la botte de foin d'ADN. Et alors, ce que dit la légende de cette figure, c'est à la recherche des éléments fonctionnels du génome, le biologiste est secondé par différents éléments modèles quand on a séquencé le génome. Alors, vous allez voir pourquoi. Il y a des organismes qui nous aident à rechercher les éléments fonctionnels dans le génome. Alors comment on fait quand on a une suite de lettres comme ça qui ne fait pas de sens pour essayer de trouver ce qui est important dans un génome? Alors, on a des méthodes informatiques qui nous permettent d'analyser ces séquences. Et notamment, je vous ai dit que on connaissait le code génétique. On a craqué le code génétique dans les années 70. Donc ça veut dire que pour un triplet base, on sait que ça doit coder un acide aminé. Et ce qu'on fait typiquement, c'est que on prend cette séquence et on essaye de la traduire. Alors on a plein de manières de la traduire, en fait, comme c'est des triplets, à chaque fois on a trois manières de la traduire, on a trois phases, on dit, on peut commencer à la base numéro 1, on peut commencer à la base numéro 2 ou à la base numéro 3, ça va donner trois séquences d'acides aminés complètement différentes. Et ça c'est facile, c'est encore facile parce qu'en fait, si on la lit dans l'autre sens, le message est complètement différent. Vous savez qu'il y a deux brins sur l'ADN, si on le lit dans l'autre sens, le message va être différent. Donc en fait il y a six phases dans l'ADN. Et ce qu'il faut faire, par exemple, pour trouver les gènes, c'est essayer de trouver là-dedans des choses qui ressemblent à des gènes, c'est-à-dire des séquences de lettres qui ont l'air d'avoir un sens au niveau protéique. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. Donc on peut prédire des gènes. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le génome humain, on avait prédit qu'il existait, au départ on avait dit 30 000 gènes, et puis après il y a des gens qui sont venus qui ont dit non, regardez, il y a plein des gènes que vous avez prédit, ça ne peut pas être fonctionnel. Donc aujourd'hui on est autour de 24 000 gènes, il y a des prédictions à 20 000, il y a des gens qui disent qu'en fait il y en a encore moins que 24 000. Donc on n'est pas encore d'accord sur le nombre de gènes qu'il y a en génome humain, parce que on dépend de méthodes de prédiction qu'il faut être capable de tester. Alors chez certains organismes, c'est assez facile de tester si un gène est fonctionnel ou pas, si on peut le retirer. On a des méthodes pour exciser un gène, pour casser un gène, et on peut regarder si c'est un phénotype, si ça change quelque chose dans l'espèce. Donc ça, typiquement chez les bactéries, chez les champignons, chez la levure c'est le champignon modèle qu'on utilise en biologie moléculaire, on est capable de faire ça. Mais chez l'homme, en général, on s'abstient d'alerter à des gènes pour voir ce que ça fait. Il faut dire qu'il y a des gènes quand on a la preuve qui fonctionne, mais quand on les retire, on ne sait pas ce que ça fait. On n'arrive pas à détecter un changement visible dans la vie de l'organisme, en fait. Par exemple, chez des bactéries, on peut retirer des gènes et on ne va rien voir du tout sur leur capacité de croissance, sur leur capacité métabolique. On va être incapable de... Donc, il y a aussi une complexité qui est liée au fait que quand on est dans un laboratoire, on regarde dans des conditions qui sont très standards, et en fait, on a souvent une idée assez peu précise de ce que sont les vraies conditions l'organisme évolue. Et voilà, et poussé dans un laboratoire à 37 degrés, quand on vous a donné tous les sucres qu'il vous fallait, etc., C'est pas pareil que ce que c'est à l'intérieur d'un humain qui mange que des hamburgers ou que de la salade ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez compliqué, mais c'est déjà un bon début pour commencer à comprendre la séquence. Et ensuite, on a le moyen de comparer les génomes, de comparer les génomes entre eux, avec dans l'idée que ce qui est conservé est contraint par la sélection. Donc ce qu'on va retrouver commun entre deux génomes, intact entre deux génomes, c'est des choses sur lesquelles la sélection a opéré et a empêché d'introduire des mutations. Donc on a l'idée que quand on a des contraintes évolutives sur une séquence, elle va évoluer moins vite que si elle n'avait aucun rôle. À ce moment-là, si elle a aucun rôle, vous pouvez accumuler toutes les mutations que vous voulez dedans et il ne va rien se passer. Alors, c'est pour ça qu'on a séquencé chimpanzé. Vous savez qu'on a séquencé GM plus chimpanzé, ce n'est pas juste parce qu'on voulait avoir la séquence du génome de notre cousin, c'est parce que c'était une étape particulièrement importante pour comprendre quelles étaient les régions fonctionnelles dans le génome de l'homme et aussi comprendre quelles étaient les différences qui font, quels sont les changements évolutifs dans le génome qui font que nous sommes des hommes et pas des chimpanzés. Et donc ça la comparaison des génomes, ça c'est donc ce que moi je fais dans mon laboratoire. On s'intéresse par exemple à caractériser quelles sont les fonctions universelles, quelles sont les fonctions spécifiques des organismes. Donc comme je disais pour l'homme par exemple, quelles sont les choses qui sont spécifiques à l'homme, quelles sont les choses qui sont communes à tout le vivant. Donc par exemple, on pose des questions comme combien il y a de gènes communs à tous les organismes. On a vu qu'ils avaient un certain nombre de choses en commun. Ils ont l'ADN en commun, ils ont le code génétique en commun, ils ont le fait d'avoir une membrane en commun. Ça pense qu'ils aient des gènes qui s'occupent de tout ça en commun. Et puis, on doit pouvoir comprendre, en les comparant, comment évoluent les génomes. Alors ça, c'est une autre, encore une troisième, une autre représentation d'exactement le même arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, vous voyez, vous trouvez les bactéries, les archées, les eucaryotes. Je vous ai mis des chiffres qui correspondent à ce qu'on sait des génomes qui sont séquencés actuellement. Donc, chez les bactéries, on a des gros génomes à 10 000 gènes. Et puis on a des petits génomes à 180 gènes. Chez les eucaryotes, le petit génome faisait 2000 gènes, donc j'ai fait ça. Et le plus grand, 40 000 gènes. L'homme, c'est 20 000, hein, je vous le rappelle. Et après, les archées, ça allait de 280 à 5 000. Alors quand on essaie de comparer tous ces gènes, on essaie de comparer leurs séquences. Alors c'est quelque chose d'assez difficile à faire parce qu'ils ont évolué, ils se sont séparés depuis plusieurs milliards d'années. On pense que l'ancêtre commun à tous ces organismes-là, celui qui se trouve ici, là, qui est représenté par le petit nœud ici, hein, on pense que lui, il existait il y a environ 3 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'évolution derrière. Et donc, c'est pas toujours facile de reconnaître les séquences qui sont apparentées. Des séquences qui jouent le même rôle, les mêmes gènes en fait. Mais ce qu'on arrive à estimer, c'est que tous ces organismes-là, ils ont une poignée de gènes, environ 64 gènes. Ça, c'est rien du tout. Ça ne permet pas du tout de faire fonctionner une cellule. Donc ça veut dire que au cours de l'évolution,
il y a eu des remplacements, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, qui ont fait que les mêmes fonctions ont été remplies par d'autres gènes. Alors, je vais peut-être repréciser ça. Donc, bon, ces organismes-là, je vais le redire autrement. Toutes ces bébêtes-là, elles font exactement la même chose si on regarde le niveau cellulaire. Hein, elles ont de l'ADN. L'ADN, il faut le répliquer. Pour le répliquer, il faut des gènes qui codent des protéines de réplication. Il en faut plein. Il en faut plusieurs dizaines pour répliquer un génome. Il faut plusieurs dizaines de ces gènes, plusieurs dizaines des protéines codées par ces gènes. Ensuite, elles traduisent ces gènes. Pour traduire ces gènes, je vous ai montré tout à l'heure, il faut tout un tas de protéines. Il faut toute une machinerie complexe, plusieurs dizaines de protéines aussi. Donc, rien que sur ces fonctions-là, dont on sait qu'elles sont communes, on s'attend à ce qu'il y ait bien 200 gènes en commun entre tous les organismes vivants. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que ces mêmes fonctions, on a trouvé différentes manières de les remplir dans les différents domaines du vivant. Ça veut dire que les répertoires de gènes des organismes ont évolué, ont changé, et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Donc la manière dont ça évolue, alors je vais aller très vite là-dessus parce que il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais si jamais vous voulez en savoir plus, on peut s'arrêter. Donc il y a ce qu'on appelle la mutation, on dirait mutation ponctuelle d'un gène. Donc, c'est-à-dire que pendant la réplication, la cellule se trompe. Elle aurait dû mettre un G là et elle va mettre un A. D'accord ? Alors ce qui va se passer, c'est que alors là, ce qu'elle a fait, Non, en fait, elle a mis un T à la place d'un A. Je ne sais pas si vous êtes capable de venir, ça c'est gros, c'est un peu petit. Hein. Bon, alors, croyez-moi sur parole, dans le premier triplé de lettres, là, ce qui s'est passé, donc ça c'était, disons, la séquence ancestrale. Ici, dans le premier triplé de lettres, ce qui s'est passé, c'est que, en troisième position, elle a mis un T à la place d'un A. Et ça change la nature, évidemment, de l'acide aminé qui va être traduit à cette position-là. Alors, le triplé a changé, donc l'acide aminé va changer, et éventuellement, la protéine qui va être issue de l'enchaînement de ces acides aminés va changer dans ses propriétés. D'accord ? Les propriétés biochimiques de la protéine vont changer du fait du changement de sa séquence. Donc ça, c'est une petite mutation de rien du tout, mais ça peut avoir un impact, ça peut changer des fonctions. Ici, il y a ce qu'on appelle un changement de phase, c'est-à-dire que ce qui peut arriver aussi par hasard, c'est pas qu'on va remplacer une lettre par une autre, mais c'est qu'on va oublier une lettre. Donc on va faire une petite délétion d'une seule base, par exemple. La plupart, c'est une seule base, ça peut arriver que ce soit deux, mais c'est plus rare, ça peut arriver que ce soit trois, c'est encore plus rare. Donc les plus abondantes, c'est une seule base. Et quand on retire une seule base, vous voyez bien que si je suis en train de lire dans une phase où je compte mon codon c'est trois bases, le codon d'après c'est trois bases, le codon d'après c'est trois bases, si là j'ai retiré une base, en fait toute la séquence derrière va être changée parce que même si c'est exactement la même séquence, je vais me mettre à la lire dans une phase différente. Donc ça veut dire que quand je vais traduire ma protéine, alors je ne sais pas si vous voyez ici, non ? Donc il y a une base qui a été retirée, ou qui a été ajoutée ici en fait, mais c'est le même processus. Et en fait, tout ce qui est en aval de cette base qui a été soit enlevée, soit ajoutée, ça va être complètement différent dans la protéine. Donc ça, c'est aussi une manière dans l'évolution de changer de manière, alors à ce moment-là, assez drastique, une fonction. Alors ce type de mutation, ça peut aboutir
à la perte de gènes. C'est-à-dire que cette petite perte d'un nucléotide, ça va faire que ce gène va devenir complètement inutile, parce que la protéine ne va plus du tout faire ce qu'on voulait qu'elle fasse. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait le perdre. Vous pouvez tout à fait avoir un morceau d'ADN qui va être éliminé par hasard, mais il n'y aura pas de pression de sélection pour le conserver. C'est-à-dire que les organismes qui vont perdre cette séquence d'ADN ne vont pas être désavantagés dès l'instant où cette séquence d'ADN déjà ne fonctionnait plus. Donc à partir du moment où vous avez perdu cette fonction, cette séquence devient neutre et donc vous pouvez la perdre. Alors ça, on connaît bien ça, on connaît des génomes qui ont poussé ça très très loin, notamment chez les parasites, chez ces organismes dont on parlait tout à l'heure qui sont devenus des parasites obligatoires, ou chez des organismes symbiotiques, mutualistes, c'est-à-dire en fait la frontière entre le parasitisme et le mutualisme, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est assez ténu, c'est-à-dire que c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Donc c'est des organismes qui ont des modes de vie assez semblables, et notamment des structures de population assez semblables, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, chez les organismes parasites et symbiotiques, on a tendance à observer beaucoup de pertes de gènes. Ça peut être lié à plusieurs choses, ça peut être lié au fait que parfois quand on vit en symbiose, c'est justement parce qu'on a quelque chose à gagner de la manière... de cette collaboration avec un autre organisme, et du coup, tous les gènes qui faisaient qu'on était indépendant de cet organisme vont pouvoir être perdus, parce qu'ils vont devenir neutres du point de vue de la sélection si l'organisme avec lequel on est en symbiose nous fournit les éléments dont on a besoin. Donc ça, c'est une hypothèse pour expliquer les pertes de gènes chez ces organismes-là. L'autre, c'est l'idée que... il y a des effets très très forts de ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est des effets du hasard qui sont liés au fait que les organismes pathogènes passent par, souvent les symbiotiques, passent par des tailles de population qui sont très faibles. Et donc, on a des effets d'échantillonnage d'une génération à l'autre qui peuvent être très très forts. Et donc, on peut éventuellement... avoir un organisme qui a perdu des gènes, qui va coloniser un milieu, parce qu'il était le seul à arriver là, il n'est pas en compétition avec les autres, et donc il va quand même gagner à la compétition, même si il a perdu des gènes, même s'il est moins compétitif que ses congénères. C'est juste que les congénères ne sont pas là. Et ensuite, donc là on a vu comment on pouvait perdre des gènes, changer un peu de fonction. Ensuite on peut très bien dupliquer des morceaux de gènes, ou des gènes, ou des groupes de gènes, ou même des génomes. Ça c'est assez intéressant, c'est rendu compte dans les années, dans les 10 dernières années, que c'est quelque chose qui s'est passé assez souvent au cours de l'évolution. Des duplications du génome entier. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous savez que vous avez 23 paires de chromosomes. On dit que votre génome haploïde contient 23 chromosomes. Votre génome diploïde contient 2N, c'est-à-dire 46 chromosomes, 2 fois 23. Et on sait que c'est assez facile de produire des organismes qu'on dit tétraploïdes. Il y a 4N chromosomes. Alors, c'est pas, ça ne marche pas chez les mammifères, mais par contre, ça marche chez les amphibiens, ça marche chez plein de plantes. Et C'est arrivé plein de fois au cours de l'évolution. Et c'est notamment arrivé plusieurs fois au cours de notre évolution. Alors donc, avant que les mammifères apparaissent, chez les vertébrés, on pense qu'il y a eu deux fois des duplications complètes de gènes. On est passé deux fois de 2N à 4N. Ça, ça a la même conséquence que les duplications de gènes simples, mais bien sûr amplifiées des milliers de fois, qui est que d'un coup, on va se retrouver avec du matériel sur lequel faire des expérimentations. Donc, je dis ça de manière un peu anthropomorphiste, mais disons que l'évolution, il va pouvoir se passer des mutations aléatoires dans des séquences qui vont du coup pas être contraintes par la sélection, et on va éventuellement pouvoir faire du neuf, ou pas, mais on peut éventuellement faire du neuf. Ce qu'on voit après les duplications complètes de génome en général, c'est que la plupart des gènes vont être perdus, la plupart des gènes qui sont en plusieurs copies du fait de la duplication vont être perdus, mais il y a un certain nombre de gènes qui, eux, vont avoir un succès important et probablement conférer une nouvelle aptitude à l'espèce qui les a concernés. Alors ça c'est des mécanismes disons, des micro-mécanismes de l'évolution dont je vous ai parlé. Ça, c'est carrément un macro-mécanisme, enfin, la duplication génome, je ne peux pas vraiment dire c'est un micro-mécanisme. Ça, c'est carrément un macro-mécanisme, c'est ce qu'on appelle les endosymbioses. Alors, il y en a plusieurs qui se sont passées au cours de l'évolution, mais il y en a une particulièrement importante qui est à la base de l'évolution des eucaryotes, qui est la symbiose entre ce qu'on appelle ici un proto-eucaryote, donc un pré-eucaryote, et une bactérie, dont on sait que c'est une bactérie qui vient du groupe des alpha-protéobactéries, donc c'est un groupe qu'on connaît bien. Et ça a formé un organisme chimère. Donc ça, c'est une des photos que je vous ai montrées la semaine dernière. Ici, vous avez le noyau, et vous avez des petits trucs là qu'on appelle les organelles, qui sont écrites organelles. Alors, parmi les organelles, il y a une structure particulièrement importante qu'on appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est un peu l'usine à respirer de la cellule. C'est ça qui lui permet de brûler les sucres, de consommer de l'oxygène, de fabriquer du CO2. C'est ça qu'on fait. C'est un peu l'usine à énergie, c'est la centrale nucléaire de la cellule, c'est elle qui fait l'énergie. Eh bien, cette organelle, hein, cette mitochondrie, on sait qu'elle a un petit chromosome à elle, qui est donc bien sûr en dehors du génome nucléaire, du noyau, et qui est un petit génome indépendant. Et ce petit génome, on est capable de montrer qu'en fait, c'est un génome d'alpha-protéobactérie. Donc, ce qui s'est passé au cours de l'évolution, c'est que il y a une grosse bébête qu'on appelle le proto-eucaryote, c'est vraiment très belle chose, mais dont on pense qu'il était relié aux archées, qui a intégré à l'intérieur de sa cellule une bactérie, et ils ont continué comme ça en symbiose. Il y en avait un qui fournissait le couvert. Fournissait la maison, l'abri à l'autre, et l'autre, à la logique, et eux qui fournissaient l'énergie. Au passage, ça explique pas mal de choses. Alors ça modifie les génomes de manière drastique. Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait un tout petit génome dans la mitochondrie. Ce qui s'est passé, c'est que l'ADN de la mitochondrie, de manière répétée, et aller s'insérer à l'intérieur du noyau. Et donc, à l'intérieur du génome nucléaire des eucaryotes, il y a plein d'inserts de l'ADN mitochondrial. Ça a donné plein de gènes qui sont fonctionnels, dont une bonne partie sont en fait synthétisées, enfin, dont les produits sont synthétisés à l'intérieur du noyau pour être envoyés à la mitochondrie. Pour vous dire l'intimité de cette symbiose. Et ça, ça explique pas mal de choses. Ça explique un peu, d'ailleurs, ce que je vous ai dit au début, ça explique les caractéristiques des eucaryotes, les caractéristiques hybrides des eucaryotes. C'est-à-dire que d'un côté, elles ont des caractéristiques de bactéries, et d'un autre côté, elles ont des caractéristiques d'archées. Et ça, on l'explique assez bien par le fait que les eucaryotes sont des chimères, de bactéries et de quelque chose qui était sans doute proche des archées. Donc ça, l'endosymbiose, c'est aussi quelque chose qui a pas mal affecté les gènes. Et puis enfin, ça c'est mon petit chéri, parce que c'est vraiment là-dessus que je travaille, c'est ce mécanisme-là qui est vraiment fascinant, qui se passe essentiellement chez les bactéries et les archées, mais aussi chez les eucaryotes dans une certaine mesure, qui est le transfert horizontal de gènes. Alors là, je vous ai présenté une bactérie, les petits rectangles là, enfin c'est deux bactéries en fait. Et les cercles, c'est des chromosomes. Alors on connaît bien trois mécanismes par lesquels une bactérie est capable de prendre de l'ADN de l'extérieur et de le mettre dans son génome. Il y en a un qui s'appelle la transformation, qui consiste à prendre de l'ADN d'une cellule morte, de l'ADN qui traîne dans le milieu. Alors de l'ADN dans le milieu, il y en a partout. Il y en a, vous prenez n'importe quel, le sol, le bureau, l'ordinateur, etc. Vous pouvez séquencer l'ADN. À partir de ça, il y en a absolument partout. Vous savez, on fait des tests ADN sur les timbres, sur les enveloppes, sur des choses qui ont été manipulées par des gens, on peut, bien sûr, vous touchez quelque chose, vous laissez votre ADN. Donc de l'ADN de cellules mortes, il y en a partout. Et il y a des bactéries qui sont capables de le prendre et de le mettre dans leur génome. Éventuellement d'exprimer, éventuellement d'en faire quelque chose. Il y a un autre mécanisme qu'on appelle la conjugaison. Alors là, qui passe par l'intermédiaire d'un petit tube là, qu'on appelle le pilus sexuel, qui est en fait, c'est cette bactérie-là qui synthétise un pilus et qui va l'utiliser pour aller injecter son ADN dans une bactérie de voisine. Donc ça, on a rapproché ça un peu du sexe. On appelle ça un sexuel. Vous voyez, c'est quand même très différent du. Enfin, je pense que c'est parce que ça rappelle une copulation, mais c'est quand même très différent du sexe des eucaryotes, parce que à partir de deux cellules, vous allez avoir deux cellules à la fin, vous n'allez pas du tout faire de fusion ou vous n'allez pas multiplier quoi que ce soit. Ce qui se passe également, c'est que cette bactérie qu'on dit mâle, cette bactérie qui ont dit femelle, à l'issue de la conjugaison, le transfert de cet ADN hein, va en particulier transférer les gènes qui servent à fabriquer le pilus, et du coup, cette bactérie va devenir femelle. Va devenir mâle, pardon. C'est-à-dire qu'à l'issue de chaque conjugaison, vous partez d'une bactérie mâle et d'une bactérie femelle, et vous obtenez deux bactéries mâles. En fait, ça, on peut vraiment le comprendre comme un mécanisme d'infection, c'est-à-dire vraiment analogue à un virus. C'est-à-dire que il y a des gènes qui fabriquent le pilus et qui utilisent la bactérie pour se transmettre à une autre bactérie. Et donc vous voyez, là au début on n'avait qu'une bactérie qui avait ses gènes, à la fin on en a deux, et puis chacune de ces bactéries va aller conjuguer avec d'autres, et donc les gènes qui sont codés pour fabriquer le pilus se reproduisent comme ça au dépens des bactéries. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la transduction qui passe par des bactériophages. Donc, les bactériophages, c'est des virus de bactéries
Donc c'est vraiment très très proche, enfin très analogue au virus que vous connaissez. En général, ils contiennent une forme de matériel génétique, en particulier de l'ADN, et cet ADN, ils peuvent éventuellement aller l'injecter dans une batterie, donc ça peut éventuellement être. C'est en général l'ADN du virus, mais ça peut éventuellement être l'ADN de la bactérie que le virus vient d'infecter. Donc comme ça, en fait, on observe en fait plein de transferts de gènes dans les génomes bactériens, plein d'échanges entre des organismes qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas d'espèce. Alors là, on parlait de la barrière d'espèce la semaine dernière. En l'occurrence, ces mécanismes-là, c'est complètement indépendant. Enfin, non, je ne devrais pas dire complètement indépendant, mais c'est largement indépendant de la proximité entre les organismes qui participent. Alors, le transfert de gènes, on s'y intéresse particulièrement parce que c'est une manière pour les bactéries d'acquérir tout un tas de caractéristiques qui sont nocives pour l'homme. Donc, par exemple, la virulence ou la résistance aux antibiotiques. Alors, j'ai trouvé cette image qui est donnée en anglais, mais c'est l'histoire d'Albert, la petite cellule toute nue, hein, qui est une bactérie, donc, qui allait tranquillement à la cuisine de l'hôpital, et c'est là qu'elle a été approchée par un membre de la résistance bactérienne, la résistance antibiotique, pardon. Et donc elle lui dit kid, tu veux être un super microbe, colle ça dans ton génome, et même la pénicilline ne pourra plus rien faire. Donc par exemple, la résistance à la pénicilline, c'est assez facile à acquérir. C'est en général, vous savez, la pénicilline, c'est un antibiotique. C'est à l'origine produit par un champignon, donc par un eucaryote, et c'est quelque chose qui a la capacité de tuer les bactéries, en tout cas d'empêcher leur division, parce que ça les empêche de faire la paroi qui protège la cellule. Donc c'est une molécule qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire de la bactérie. Et les bactéries ont trouvé, certaines bactéries ont trouvé une solution à ça, c'est qu'elles exportent une protéine qui détruit la pénicilline. D'accord ? Donc c'est juste un gène qui suffit d'exporter à l'extérieur et vous allez détruire la pénicilline. Donc, vous pouvez continuer à croître comme ça. Alors, le gène de résistance à la pénicilline, il est très facile à acquérir. C'est un seul gène, et c'est assez facile à acquérir, donc ça peut se transférer d'une bactérie à l'autre. Et c'est un des problèmes énormes qu'on a aujourd'hui en médecine, c'est que pour la plupart des antibiotiques, il existe des résistances. Et on trouve maintenant des souches de bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaît. Et ça, c'est grâce au transfert de gènes que ces bactéries sont capables d'acquérir toute la panoplie qui permet de résister à tous les médicaments. Alors, c'est pas forcément des gènes de résistance ou des choses comme ça, mais par exemple, dans le génome de la chouchoute des biologistes moléculaires chez Escherichia coli, c'est aussi la bactérie qui est la plus abondante dans notre tube digestif et qui nous permet de digérer tout un tas de choses, dont on parlait tout à l'heure. On estime qu'il y a au moins 13% de gènes qui ont été acquis, très récemment. La méthode par laquelle on les détecte, là, c'est une méthode qui permet de voir que les gènes qui ont été acquis récemment. Donc là, ça veut dire que, qu'il y en a beaucoup des gènes transférés dans les génomes bactériens. Et puis, vous voyez que ça varie pas mal d'une bactérie à l'autre. Donc voilà, par rapport à l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel j'avais mis
l'état des génomes et leur comparaison. J'ai voulu rajouter un certain nombre de choses. Donc vous voyez les eucaryotes, c'est issu d'une endosymbiose, avec une grande grosse flèche. C'est un groupe de bactéries qui est venu s'insérer là dans la ligne eucaryote. Et après, hop, c'est devenu des choses complètement différentes. Il y a eu des duplications, ces petites flèches rondes, et puis il y a des transferts de gènes, etc. Donc tout ça, c'est des mécanismes très importants de l'évolution des gènes. Alors, je me rends compte que l'heure tourne. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, je vais quand même vous parler. Je reviens à ça. Les tailles de génome. On a des génomes énormes chez les eucaryotes. Pourquoi est-ce qu'on a des génomes si gros? C'est un peu paradoxal parce que, bon, on peut dire, on est quand même vachement plus compliqué qu'une bactérie. Ça se défend. Mais quand on regarde par exemple les deux organismes qu'on connaît bien, Homo sapiens et puis qui vivent ensemble, Homo sapiens, il a 3 milliards de nucléotides dans son génome, 3 milliards de lettres, ça correspond à 24 000 gènes. En fait, on estime qu'il y a à peu près 1% du génome qui code pour des protéines. Bah, c'est là qu'on en vient. Par contre, chez les bactéries, on a bon, alors 4 millions, enfin chez les chamouilles, on a un peu plus de 4 millions, 4 millions et demi de nucléotides, ça correspond à 4300 gènes. On a nettement moins de gènes, on a nettement plus de gènes, mais on a beaucoup plus d'ADN. Chez les bactéries, c'est à peu près 80% du génome qui code pour des protéines. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, à part des gènes, qui codent pour les protéines dans les génomes bactériens, alors que dans les génomes eucaryotes, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien qui code. Alors, ça c'est une figure que j'ai prise dans un livre qui représente un petit peu cette même idée. Qui est la densité en gènes des génomes. Donc là, vous avez exactement la même quantité d'ADN qui est représentée, donc c'est 50 000 lettres, 50 000 nucléotides, et puis en haut, vous avez le génome de l'homme, et en bas, le génome des chiens et chacouilles, donc vous voyez, 50 kilobases, donc 50 000 bases. Ce qu'on a représenté en rouge, c'est ce qu'on pense être des gènes. Donc, c'est des partie fonctionnelle de l'ADN. En jaune, c'est ce qu'on appelle des pseudogènes. Donc en fait, c'est ce dont je vous disais. Enfin, je ne vous en ai pas, je les ai pas appelés comme ça tout à l'heure. C'est des gènes qui sont plus fonctionnels en fait. C'est des gènes qui ont perdu leur fonction, qui sont toujours là, mais dont on peut montrer qu'ils sont plus actifs parce qu'ils ont subi une mutation qui empêche leur fonctionnement. Et puis vous voyez qu'il y a plein de petits trucs bleus, hein, et ça c'est ce qu'on a appelé ici de l'ADN répété. C'est des éléments répétés d'ADN. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que ça. C'est pas évident, alors il faut m'arrêter si je ne suis pas clair. Je me suis dit, je vais en parler quand même, mais c'est pas super facile. Dans les années 40, cette dame, hein, qui s'appelle Barbara McClintock, s'intéressait au maïs en particulier et à ces épis bizarres que vous avez peut-être déjà vus, sur lesquels on a des variations de couleurs entre tous les grains. Chaque grain a une couleur un peu différente, et puis on voit que c'est complètement sporadique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas très bien, parce que, comme vous le savez, comme vous le savez, un organisme peut éventuellement se différencier, mais dans un épi de maïs, en général, il n'y a pas de différenciation. Tous les grains sont identiques. Mais des fois, on trouve des épis de maïs comme ça qui sont tout bizarres. Et donc, je voulais essayer de comprendre quel était le mécanisme qui expliquait ces changements de couleur. Et alors, ce qu'elle a découvert, hein, je la fais courte, ce qu'elle a découvert, c'est qu'il existe des gènes qu'on appelle des transposons, des éléments transposables, qui sont capables de coder pour leur propre insertion dans un autre endroit du gène. C'est-à-dire que ils vont faire un produit qui va être capable d'aller se mettre autre part dans l'ADN. Donc ils vont fabriquer une séquence d'ADN qui va être identique à eux-mêmes et qui vont pouvoir aller mettre autre part dans l'ADN. Alors ça c'est un truc qui peut avoir des conséquences assez dramatiques dans un génome. C'est-à-dire que vous prenez un morceau d'ADN et vous allez le mettre n'importe où, ça peut être assez gênant. Si vous allez le mettre à l'intérieur d'un gène qui est fonctionnel, ça peut être assez gênant. Et ce qui se passe chez le maïs, c'est que vous allez le mettre dans des gènes qui sont liés à la pigmentation ou à proximité de gènes qui sont liés à la synthèse d'un pigment. Par exemple, la mélanine ou quelque chose comme ça. Donc, on va avoir des changements de couleur. Seulement, ces gènes, vous voyez que c'est à l'intérieur d'un même individu. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans lesquelles ils font, il y a des cellules dans lesquelles ils ne font pas, il y a des cellules dans lesquelles ils sautent dans un gène, il y a des cellules dans lesquelles ils sautent dans un autre gène. D'où ce patron complètement aléatoire, enfin, qui a l'air complètement aléatoire de modification des couleurs. Alors pourquoi ils font une telle chose, quoi? Pourquoi un gène se mettrait à faire quelque chose comme ça? Alors, j'essaie de vous expliquer ça. Alors, là, la petite boule en bas, là, c'est un spermatozoïde. Bon, c'est pas vraiment. J'ai pas réfléchi en faisant ça, évidemment, il n'y a pas de spermatozoïde chez le maïs, mais ça marche chez n'importe quel organisme. Hein. C'est juste pour parler du moment où on fait le gamète quand on est un organisme sexué. Donc, vous savez, il y a 46 chromosomes, et vous n'allez en passer que 23. Chez votre enfant. D'accord ? Les autres, c'est papa, maman, c'est votre partenaire qui va aller les mettre. Et donc, il faut choisir. En général, ça se fait au hasard. Normalement, ça se fait complètement au hasard. Et donc, imaginez, vous êtes un gène, hein, vous êtes le petit gène rouge, et vous êtes sur un chromosome. Si vous, au moment où le choix va se faire pour passer à la génération suivante, bon, bah, vous n'avez qu'une chance sur deux de passer à la génération suivante. C'est normal, c'est honnête. Par contre, si vous êtes un petit malin, donc je ne devrais pas en parler comme ça, parce que c'est après on a des problèmes pour comprendre le mécanisme de l'évolution, mais disons que, imaginons qu'il existe un gène qui soit capable de faire ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire, il est capable d'aller faire des copies de lui-même dans d'autres parties du génome. Vous voyez qu'un tel gène, s'il est capable d'aller se mettre un peu partout, il est quasiment assuré d'être dans la naissance. Et donc ça, évidemment, la sélection naturelle le favorise. D'accord ? Parce que, en fait, il multiplie sa capacité à se reproduire en allant s'insérer dans d'autres copies du génome. Donc, dans le génome, on a 1% de régions codantes. Et en fait, alors là j'ai pris cette diapo sans la modifier, j'aurais peut-être pas dû, vous n'êtes pas obligé de lire toutes les infos, vous pouvez, si vous avez des questions dessus, on peut en parler, mais vous voyez que ce qu'on appelle les éléments fonctionnels, là, c'est deux choses qu'on a vues, les pseudogènes et les éléments transposables. Les pseudogènes, c'est à peu près 1,2% du génome humain. Les éléments transposables, c'est 42%. Donc vous avez dans le génome 1% de de séquences codantes pour des protéines qui font toutes les choses qu'il faut pour fabriquer un petit homo sapiens. Et vous avez 42% de gènes dont la seule fonction, c'est de se reproduire dans le génome, en sautant d'un endroit à l'autre. Il y a une autre, dans les enlèvements transposables, là, je vais terminer là-dessus, mais ça va faire la transition avec la semaine prochaine. Dans les éléments transposables, là, on a mis une classe qu'on dit d'éléments transposables, alors on ne devrait peut-être pas les mettre là, c'est des HERV, ça veut dire Human Endoretrovirus, c'est des rétrovirus, donc des virus endogènes humains. C'est des choses dont on peut montrer que ça ressemble beaucoup à des virus, c'est probablement des virus, mais c'est des virus qui sont installés de manière stable dans la vie humaine, dans le génome humain. Et ça compose aussi une partie non négligeable du génome, je crois que ça fait à peu près 8% du génome, qui en fait sont des traces d'infections anciennes de l'espèce humaine qui sont restées dans le génome et dans le génome qu'on transmet à nos descendants, pas seulement dans le génome des cellules somatiques. Voilà. Et donc, ça c'est pour dire que, en fait, l'arbre du vivant que je vous ai montré, on le considère comme ça parce que bon, il y a un débat chez les biologistes sur est-ce que les virus sont vivants, est-ce que c'est pas vivant. En tout cas, on n'est pas capable de faire la relation vraiment au niveau historique des bactéries, des eucaryotes et des archées avec les virus. Mais on sait qu'il y a une évolution parallèle de tous ces organismes avec ces parasites qui les ont toujours infectés, qui leur ont souvent transmis des gènes, qui leur ont parfois piqué des gènes. Et donc, il y a une histoire d'échange constant de matériel génétique et donc de modification de génome en relation avec ces infections et ces symbioses qui ont pu s'établir entre les organismes cellulaires et les virus. Et donc on va parler des virus la semaine prochaine. Voilà, et c'est tout.